Mais j'ai choisi un peu sur le thème économiques, en fait. Comment j'ai vécu ma vie avec Dieu qui a vraiment pourvu à mes besoins, en fait. Alors, je suis née à Paris, après je suis arrivée à Neuchâtel pendant 3 ans, et je suis repartie quand j'avais 4 ans à Montpellier, au sud. Et mes parents sont missionnaires là-bas, en fait, donc parmi les Juifs. Et bon, au niveau financier, c'était pas très facile parce que, en tant que missionnaire, des fois, c'est pas toujours facile d'avoir des fonds, d'avoir les moyens. Donc, jusqu'à au moins, ouais, je vais dire jusqu'à 15 ans, c'était assez chaud financièrement dans ma famille. Et on avait pas mal de problèmes à payer tout ce qu'il fallait, la nourriture et tout. Mais en tant qu'enfant, mes parents, ils m'ont toujours appris à vraiment faire confiance en Dieu et se dire que, il était toujours là et c'est lui qui pourvoyait à nos besoins et qu'il fallait pas se faire du souci. Et un jour, à 8 ans, j'avais une paire de chaussures et elle était trouée. Du coup, je disais, mince, j'ai pas trop envie d'aller à l'école avec des chaussures trouées. Alors, du coup, ma mère, elle a dit, viens, on va prier et puis on verra qu'est-ce que Dieu peut faire. Alors après, on a prié ensemble. Et là, j'ai vraiment, à 8 ans, en fait, j'avais déjà donné ma vie à Dieu. Donc, c'est clair, quand je priais, je savais qu'il allait répondre, mais je me disais, mais comment il va faire pour me donner des chaussures un jour? Et en fait, le lendemain, après avoir prié, on a vu des chaussures pendues sur notre portail, et exactement ma taille, parfait. J'étais, mais qui c'est qui a pu faire ça, quoi? Alors moi, à 8 ans, j'étais, il a envoyé du ciel, c'est lui qui les a données. Puis ma mère, elle était, je pense pas que c'est tombé du ciel, mais du coup, en fait, on s'est un peu renseigné, on s'est dit, mais c'est qui m'a donné ces chaussures? En fait, c'était une voisine, pas du tout chrétienne, hein, qui était là, et elle faisait le tri dans ses affaires, et puis elle avait pensé à nous, comme ça, elle s'est dit, pourquoi pas donner des chaussures comme elle savait que j'avais la même taille que sa fille et tout ça. Donc ça, c'était une histoire qui m'a beaucoup marquée en tant qu'enfant, de dire que Dieu, il répond à la prière et des fois, ça ne met pas du temps, des fois, c'est en un jour, c'est là, quoi. Et après, ça, c'était vraiment une bénédiction d'une personne non chrétienne. Donc ça, c'était dingue pour moi de se dire, Dieu ne touche pas que le cœur des chrétiens, en fait. Il utilise vraiment les non chrétiens. C'est vrai que dans ma vie, la plupart du temps, c'était des non chrétiens, en fait, qui m'ont vraiment aidée. Et santé. Et du coup, en fait, il y a eu pas mal d'histoires comme ça. Un jour, on manquait du beurre, un jour, on manquait des choses comme ça. Il y avait toujours des voisins, mais ils ne savaient pas du tout notre situation, notre situation économique. Ils n'en avaient aucune idée, mais ils étaient toujours là à donner des choses alors qu'on ne demandait rien et c'était juste dingue. Et après, vers 18 ans, en fait, je voulais partir avec Jeunesse en Mission pour faire de la mission. Et puis là, j'ai encore vu Dieu qui m'aidait et puis il y avait toujours des gens qui étaient là pour voir mes besoins. Et quand je suis revenue, je voulais faire mes études à Lausanne. Et là, c'était vraiment un truc de dingue combien il m'a aidée par rapport à ça, surtout au niveau financier. Parce que je venais ici et je ne connaissais personne. Alors c'est clair que j'avais pas de logement, j'avais rien. Et puis il a vraiment tout pourvu à mes besoins, en fait. Il a envoyé des. En fait, j'ai ma grand-mère à Genève. Et elle m'a dit, je vais t'aider financièrement un peu chaque mois. Donc déjà, ça, c'était énorme parce qu'elle n'est pas chrétienne non plus. Et puis je me suis dit, waouh, qu'elle veuille faire ça. J'ai rien demandé. Chaque fois, je demande rien, mais c'est eux qui viennent à moi et c'est juste magnifique, quoi. Et sa voisine, elle est venue vers moi un jour et puis elle a dit, ouais, j'aime bien ton projet de faire des études d'infirmière pour faire l'humanitaire plus tard. J'aimerais te donner de l'argent. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'elle non plus, elle n'est pas chrétienne. Donc, quand même, des personnes comme ça qui viennent vers toi et qui te demandent juste, est-ce que tu veux de l'argent? Je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Et puis c'est là où je me suis dit, mais ça, c'est vraiment Dieu, quoi. Il envoie des personnes chaque fois sur ma route pour me bénir, quoi. Bon, je ne le mérite pas du tout, mais il est toujours là. Et puis, cette femme, elle m'a donné tout l'argent pour meubler ma chambre. Après, j'arrive à Lausanne et puis je reçois des bourses parce qu'en fait, j'ai la nationalité suisse. Donc ça, c'est génial aussi. Ça, c'est une bénédiction. Et en plus de ça, il y a une autre voisine de ma grand-mère. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont, ces voisines. Hein je ne sais pas. Mais elle a dit, écoute, moi, j'ai à cœur aussi de te donner chaque mois un peu d'argent et tout. J'étais, ah ouais, ok, bon, pourquoi pas. En fait, moi, je n'aime pas dire oui parce que je me dis, j'ai pas envie de dépendre des autres. Mais c'est vraiment Dieu qui m'a appris à. En fait, c'est un cadeau de ma part. Et puis toi aussi, un jour, peut-être que tu pourras donner et puis faire comme ça. Et puis ça, c'est vraiment. En fait, il m'a juste montré qu'il peut utiliser des chrétiens, mais comme des non-chrétiens, en fait. Et vraiment, à chaque moment, il m'a béni. Et quand je suis venue aussi ici, pas juste niveau financier, mais il a toujours mis des gens sur mon chemin et puis il m'a toujours aidée, quoi. Et c'est vrai que des fois, il y avait des jours où je me disais, comment ça va se passer? Et puis chaque fois dans la Bible, je suis tombée sur un passage qui dit, mais c'est moi qui va t'aider dans cette situation, c'est moi qui va pourvoir. Et puis souvent à travers des gens, en fait. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas trop envie de se faire aider, mais bah, Dieu, il dit, y a plein de gens autour de toi, ils sont là pour t'aider, en fait. Du coup, voilà, ça, c'était un peu mon témoignage. Après, il y a tellement de choses à dire, mais ça, c'est un peu... Bref. Voilà.
Merci beaucoup, Licia. Donc, vous avez compris, à la fois, c'est un culte tartine, en même temps, c'est un culte 4D. 4D, c'est un petit nom pour générique pour désigner des cultes qui sont ouverts à toute génération et aussi dans lesquels les jeunes peuvent se retrouver. Voilà, je te remercie, Licia, pour ces quelques mots. Je trouve très encourageant de voir que tu es une fille bénie, une petite chérie de Dieu, c'est bien. Ça fait presque des jaloux, non ? Ça va ? Et puis, de voir aussi la générosité de Dieu, je trouve que tu l'as très bien exprimé, merci beaucoup. Et j'aimerais prier maintenant pour Aurélien, en fait, qui va nous apporter un message donc sur ce thème, les personnes que Dieu place sur notre chemin et aussi ceux que nous pouvons être sur le chemin des autres. Donc, je prie volontiers pour toi, si ça te va. Seigneur, je te remercie pour Aurélien. Merci pour son cœur, merci parce que tu remplis son cœur, sa bouche. Maintenant, tu lui donnes de la liberté. Je te prie pour qu'il y ait un accueil, une ouverture de cette parole. Merci pour les dons, le talent que tu as donné de communicateur et parce qu'il le met au service de nous tous et de toi d'abord, Seigneur. Bénis-nous avec lui, Jésus. Amen.
Voilà. Alors, volontiers, si tu peux m'aider à faire un peu d'espace, sinon je vais tourner sur moi-même, ce sera un peu dur. Alors. Alors, premièrement, est-ce que vous m'entendez bien ? Deuxièmement, est-ce que vous êtes bien assis, confortablement posé ? C'est parfait. Alors, même si vous me voyez assez régulièrement devant l'église pour différentes annonces, je me présente quand même. Je m'appelle Aurélien Fauquet. J'ai la chance d'avoir une grande partie de ma famille ici dans cette église, entre autres mes parents, mes frères, ma belle-sœur, et puis également ma femme et mes grands-parents. Alors, je suis actif au Flambeau, je suis également actif dans la louange et puis Noël pour tous, c'est pour ça que je suis parfois devant. Alors, sur la lancée du témoignage d'Alicia, je vais vous apporter ce matin un court enseignement sur la signalisation routière. Vraiment, vraiment. Non, ce sera clairement ça. Alors, comme en voiture, je vous invite à attacher vos ceintures et à me suivre. Alors, généralement, pour se déplacer d'un point A à un point B, il y a une multitude de parcours. Et puis, par exemple, dans ma situation, pour venir à Villars depuis chez moi, depuis Saint-Paul à Lausanne, j'ai vraiment d'incroyables multiples parcours. Je pourrais par exemple passer par l'avenue des Chalands, prendre le pont Chaudron, prendre l'avenue Ruchonnet, arriver à la gare, puis arriver aux Fleurettes. Ce n'est pas du tout le chemin le plus facile. Je pourrais également prendre Cordon, l'avenue de Morges, la route de Genève, Sévelin, puis Marc Dufour, et j'arriverai ici. Enfin, il existe une multitude de parcours. Certains, pour résumer, si je les prendrais à pied, en bus ou encore en voiture, serait plus long, plus simple, plus rapide ou avec tout plein de changements. Pardon. Alors, dans la vie, il me vient souvent à l'esprit que c'est parfois un peu la même chose. Là, c'est une situation en voiture, mais dans la vie, c'est parfois la même chose. Parfois même, je ne sais pas trop où je vais, ni parfaitement d'où je viens, ou encore, je ne suis pas toujours sûr de ma destination finale. Alors ça, ce serait dans ma vie de tous les jours, avec mon travail, ma famille, mais dans ma vie avec Dieu, est-ce que ce serait également la même chose ? Alors, il faudrait peut-être commencer par se fixer déjà un but, un objectif, une destination, et je vous propose pour ça de voir ce qui nous est proposé dans une histoire de la Bible, suite à la question d'un jeune homme riche à Jésus. Alors ça se trouve dans Marc 10, les versets 17 à 21. Alors je lis, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu, seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors là, on a déjà une bonne piste, on voulait se fixer un but, une destination, alors disons que, pour simplifier, ce sera d'hériter de la vie éternelle. Et puis, ensuite, comment y arriver? Donc ça, ce serait vraiment la destination qu'on aurait dans notre parcours. Comment y arriver? Et Jésus nous dit, viens et suis-moi. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on était en voiture, vous attachez vos ceintures, alors il faut suivre le panneau Jésus. Alors, c'est pas toujours facile. C'est vraiment pas du tout facile. Et puis pour commencer, on a dit qu'on partait en voiture, donc je vous propose d'allumer vos phares et puis de prendre votre GPS. Alors, vous l'avez déjà entendu, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » dans les psaumes 119 au verset 105. Et puis la semaine dernière, on a découvert aussi une nouvelle forme de GPS. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est lors du message. GPS peut aussi dire « Garde ma parole soigneusement ». Donc voilà déjà deux premiers outils pour partir en voiture et je pense déjà important de les prendre. Chercher Jésus des voies, chercher Jésus dans son GPS, c'est déjà un bon début pour mieux le connaître et le suivre. Donc ensuite, on se lance sur la route et voilà que parfois, on se perd quand même et puis on est perdu et puis c'est pas toujours aussi simple que ce qu'on croirait. Alors heureusement, dans la vie, Jésus a aussi placé d'autres éléments, de nombreuses indications sur notre route pour qu'on retrouve notre chemin. Et c'est là où je veux en venir ce matin, c'est ces panneaux d'indication. Alors il y en a tout plein de panneaux, on pourrait faire autant de métaphores spirituelles sur ceci, mais aujourd'hui j'ai à cœur de vous présenter ces panneaux comme des personnes que Dieu aurait placées sur notre route pour nous aider à le suivre. Alors c'est là le lien avec le témoignage également de Licia, où il y a des personnes également sur sa route qui lui ont permis de progresser et de continuer. Alors pour poursuivre, je vous propose de découvrir l'histoire d'une femme de la Bible qui, à un moment précis, choisie par Dieu, s'est transformée en panneau stop pour un homme qu'on connaît bien, David. Alors il s'agit du récit d'Abigaël et il se trouve dans 1 Samuel 25. Alors pour vous situer un petit peu, dans la vie de David, ça se déroule dans la période où il fuit le roi Saül qui projetait de le tuer et plus précisément lorsqu'il se réfugie dans le désert de Maon. Et ça se trouve après la mort de Samuel. Au début du chapitre, David demande à un homme très riche qui s'appelle Nabal s'il peut généreusement lui offrir de la nourriture pour lui et ses hommes. Mais Nabal refuse catégoriquement. Alors il faut savoir qu'il s'agissait à l'époque d'une règle d'hospitalité à l'époque de nourrir les voyageurs sur nos terres et que précédemment David lui-même s'était montré bon pour les hommes de Nabal et les avait même protégés. Donc David était furieux, et puis à ce moment-là, il part, on voit dans la Bible qu'il part avec 400 hommes pour tuer Nabal et tous les siens. C'est là qu'intervient Abigaël, car pendant ce temps-là, elle découvre comme ça les plans de David, et part à sa rencontre avec de la nourriture. Donc on entre dans la lecture de 1 Samuel 25, les versets 23 à 35. Alors je lis, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux. Ah, il y a juste le 17 qui est resté de la lecture précédente. Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « C'est ma faute, mon Seigneur, permets à ta servante de te parler et écouter ses paroles. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom, il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. » Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui te veulent du mal à mon Seigneur, soient pareils à Nabal. Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte à toi, mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne la faute de ta servante. En effet, L'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin comme une fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigaël, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin. » David prit ce qu'Abigaël lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix chez toi, tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. » Alors, on découvre dans ce texte, on n'a pas passé d'un texte à l'autre, mais on découvre en tout cas dans ce texte plusieurs clés qui peuvent nous apprendre comment est-ce qu'on peut nous-mêmes être quelqu'un placé sur la route d'une autre personne placée par Dieu, ou comment est-ce qu'on peut découvrir que sur notre chemin, Dieu a également placé des personnes pour nous aider. Alors, je propose de regarder dans ce texte-là, différents versets. Au verset 24, puis se jetant à ses pieds, il dit « C'est ma faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler et écouter ses paroles. » Lorsqu'on intervient peut-être sur la route de quelqu'un, comme un panneau d'indication, il faut également faire attention à ne pas forcer. Alors, vous connaissez sur la route, il y a des stops, c'est peut-être un peu fort, et puis parfois il y a des céder le passage, c'est être un peu plus doux, et puis parfois il ne faut pas non plus mettre un stop sur le chemin des autres. Au verset 25, on y découvre également du conseil. Au verset 26, c'est le fait de reconnaître que c'est Dieu qui agit et que l'on sert en se mettant à sa disposition. C'est Abigaël qui le dit, « Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. » Ce n'est pas Abigaël, c'est l'Éternel. Au verset 27, on découvre également une action particulière qu'elle fait. Et là, on l'a entendu également dans le témoignage d'Alicia ce matin. Parfois également, on peut intervenir sur la route d'une autre personne en faisant une action particulière. Et ici, c'est lorsqu'Abigaël, finalement, prend la nourriture qui était due à David et puis lui l'apporte. Au verset 28 et au verset 29, on découvre comment est-ce qu'on peut être une bénédiction également et donner une bénédiction aux personnes qu'on rencontre ou que Dieu met sur notre route. Là, Abigaël donne une bénédiction pour David. Elle lui dit « L'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. » Ainsi qu'au verset suivant, « Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre en vue à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. » On découvre également, au verset 30 et puis 31, qu'on peut également transmettre également des prophéties, ou même donner des paroles pour la vie des personnes qu'on rencontre. Au verset 32, là c'est de l'autre côté, jusqu'à maintenant on avait vu comment est-ce qu'on peut être quelqu'un sur la route de l'autre, et là c'est David, David qui reconnaît l'action de Dieu dans les actes d'Abigaël. Au verset 33, « Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang qui a retenu ma main. » Également, quand on découvre que Dieu a placé des personnes sur notre route, c'est aussi parfois bon de remercier ces personnes, également les bénir en retour. Donc, on peut imaginer pour ces différentes situations tout plein de panneaux sur la route, parfois, par exemple, pour reconnaître... ça prend un petit peu de temps, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il faut vraiment découvrir qu'on peut avoir des clés dans ce passage qui nous aident à découvrir comment est-ce qu'on peut être nous-mêmes sur le chemin d'une personne et puis comment est-ce qu'on peut agir. Puis on peut également réfléchir de si quelqu'un est placé sur notre route, comment est-ce qu'on peut l'accueillir, comment est-ce qu'on peut le bénir et puis qu'on peut reconnaître l'action de Dieu. Et puis, pour la suite, j'aimerais également présenter un panneau de circulation un petit peu particulier, c'est celui de limitation de vitesse. Et puis, parfois, on peut également, dans nos vies, être un tel panneau pour les gens qui nous entourent. Alors, je vous raconte comment. Il s'agirait du fait d'encourager les autres afin qu'ils puissent poursuivre leurs tâches avec encore plus de motivation et d'énergie. On est bien content sur la route, quand on roule tranquillement, qu'il y a enfin un panneau fin de circulation, fin de limitation de vitesse, et puis qu'on peut mettre une vitesse supérieure. Et ben dans nos vies, parfois, on fait des actions, puis on a l'impression de s'éterniser dans ces actions. Et puis, il y a des gens sur notre route qui peuvent nous dire « Mais c'est bien ce que tu fais. Continue, poursuis. C'est juste ce que tu fais. » Et là, on découvre un texte dans 1 Thessaloniciens 5 qui nous donne des clés là-dessus. C'est sur le fait d'encourager, de s'encourager les uns les autres. Alors, je vous le lis également. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail, soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles et faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme du mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même avec une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite pour ce texte, en tout cas, de pouvoir le relire dans la semaine qui va suivre, et puis découvrir comment est-ce que vous pouvez être une bénédiction sur le chemin des autres, comment est-ce que vous pouvez les encourager. C'est quelque chose d'extrêmement vital, surtout dans une église. Vous l'avez vu aussi dans toute la période qui a précédé l'arrivée de Claude Bécher, il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées, qui ont relevé leurs manches, qui ont fait beaucoup de travail. Il y a des gens qui ont découvert de nouvelles vocations, de nouveaux services. Et puis vraiment, pour qu'on puisse poursuivre, qu'on puisse avancer en tant qu'église, ça vaut la peine qu'on puisse s'encourager les uns les autres, se bénir. Et je vous invite à relire ce texte la semaine qui vient, puis de voir comment est-ce qu'on peut être une bénédiction dans la vie des autres. Je pense également, par rapport à ce texte-là, par rapport aux enfants ou aux jeunes qui vous entourent, parfois, j'ai l'impression que la vie d'un enfant, c'est souvent plein de stops, plein de limitations de vitesse, ça ne va pas à la vitesse à laquelle il aimerait. Et puis, je vous encourage parfois, lorsqu'il fait quelque chose de bien, mais de le booster, de lui permettre d'aller à 160 sur l'autoroute, c'est pas grave. Il y a des parents qui le protègent. Alors, pour conclure, je désire souligner deux éléments importants. Dieu, dans son plan divin, peut utiliser une personne à différents moments de notre vie pour nous aider à retrouver notre chemin, ou nous aider à suivre Jésus. Puis le deuxième, à l'autre moment, Dieu peut nous utiliser nous-mêmes, moi, toi, chacun d'entre nous, pour simplement intervenir, faire une action dans la vie d'une autre personne. Parfois on le sait qu'on agit, parfois on ne sait pas. Il suffisait peut-être d'être là, il suffisait de dire bonjour, ou peut-être une autre fois, c'est en donnant une bénédiction, un encouragement, ou parfois c'est en donnant une somme d'argent, parce qu'il nous semblait que c'était juste de le faire à ce moment-là, ou un autre cadeau. Alors j'aimerais vraiment souligner cette mission de témoin, et puis de serviteur à laquelle Dieu nous appelle. Et puis, on lit pour terminer, dans Actes 26, au verset 16 à 18, « Mais lève-toi, et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie à leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Donc je vous invite à saisir pour vos vies aussi cette déclaration de Jésus qui est adressée à Paul, qu'on puisse également parfois aider les gens sur leur route, leur ouvrir les yeux, leur indiquer peut-être une piste à suivre. Puis comme vous l'avez peut-être entendu à la fin du verset, où il est écrit « Par la foi en moi, le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints », c'était le but qu'on s'était fixé au tout début du voyage. Alors on est arrivé, et puis vous pouvez détacher vos ceintures. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup Aurélien. Je vous propose un petit moment peut-être de méditation, de silence, vous placer devant Dieu. Et puis peut-être qu'il vous a remémoré une personne ou l'autre qui était sur votre route. Peut-être exprimer votre reconnaissance, ceux qui ont envie de prier puissent prier. Voilà, être aussi ouvert à recevoir les autres comme un cadeau, puis une bénédiction de Dieu. Et Dieu nous envoie vraiment des personnes, je pourrais en témoigner aussi. Et puis être aussi ouvert, comme ça a été dit, à s'engager dans cette course et être aussi témoin et bénédiction pour les autres. Donc je vous invite simplement à laisser résonner ces paroles en vous et passer comme ça un petit moment avec Dieu, tranquillement, de méditation.